Voyage, voyage.
RNV. Pour la suite, il est temps de retrouver Voyage Voyage. Et pour Voyage Voyage, évidemment, je suis en compagnie de Françoise. Salut Françoise.
Bonjour Yago.
Françoise, la dernière fois, tu nous avais fait voyager en musique dans l'univers un peu sombre, ma foi, d'un compositeur cher à ton cœur, n'est-ce pas?
Mais oui, Schubert.
Schubert, absolument. Cette fois, pas de musique, même si évidemment on en écoutera quand même un petit peu à la fin, et je crois que ce sera tonitruant par ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, mais un voyage pour le moins coloré.
Ah oui, alors je reviens de Malte, où j'avais envie d'aller depuis un certain temps, c'était sur ma liste, d'abord parce que je savais pas où c'était.
Mais j'allais te dire Malte, terre européenne, mais finalement pas si connue que ça.
C'est ça. Donc c'est une île, il y a plusieurs îles d'ailleurs, il y en a une grande et quelques petites, qui est située en dessous de la Sicile. C'est à 80 km des côtes siciliennes.
Très proche finalement.
Très proche, très stratégique, sur la route de Jérusalem. Donc, squatté, si on peut dire, pendant quelques siècles, par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
Ok.
Qui étaient là pour protéger les pèlerins, tout en faisant évidemment du commerce.
Après, on connaît le principe des îles, squattées certes à un moment donné par ces gens-là. J'imagine qu'il n'y en a eu passablement d'autres, des squatteurs.
Alors, ça a commencé par les Romains, les Arabes, et puis les chevaliers de Saint-Jean, en finissant par les Français, via Napoléon, parce qu'évidemment Napoléon aimait s'approprier tout ce qui était bel et bon et qui rapportait des sous. Et les Britanniques, pour terminer, qui ont laissé la conduite à gauche.
Et la langue.
Par exemple. Et la langue, qui est la deuxième langue officielle du pays, dont la première est le maltais.
Mais d'ailleurs, est-ce que cet anglais, c'est une langue avant tout pratique pour le touriste, qui est donc comprise, mais pas forcément parlée au quotidien? Ou est-ce que vraiment il y a ce métissage entre des gens qui parlent volontiers l'anglais et d'autres gens qui parlent le maltais?
Tout le monde parle le maltais,
okay.
Qui est donc une langue unique au monde, une langue dite sémitique, c'est-à-dire que c'est un mélange d'arabe, d'hébreu, ça s'écrit avec l'alphabet latin, et ça ne ressemble à rien.
C'est vrai, tu m'as fait lire un bout sur une plaque commémorative, je me suis dit, c'est marrant, il y a en fait différentes origines. On arrive à se dire, tiens, ça ressemble à ça, tiens, ça ressemble à ça, mais au final, ça ressemble presque à une langue inventée avec des mélanges de choses.
Ben, comme souvent sur ces îles en plus, c'est propice à ça. Donc il faut bien une langue pour discuter avec le reste du monde. Ça a été l'anglais. Et puis comme l'Italie est proche, eh ben, on y parle facilement l'italien aussi.
Ok, ouais, effectivement, avec cette proximité, comme on le disait tout à l'heure, avec la Sicile, ça faisait du sens. Et donc j'imagine aussi que dans cette région, il y a aussi passablement de métissage dans tout ce qui est archéologique, dans tout ce qui est architectural.
Alors, y a deux sites mégalithiques qui datent de moins 3500 et moins 2800, donc qui ont 6000 ans à peu près, sur l'île, qui sont protégés par l'UNESCO, qu'on a été dessinés. C'est des temples absolument magnifiques sur un site, comme souvent, extraordinaire, vu sur la mer, falaise spectaculaire, grand dégagement, magnifique, jusqu'à des choses baroques, superbes. Et une marque de fabrique architecturale typiquement maltaise, c'est que les maisons sont souvent décorées avec ces fenêtres en saillie, ces bow windows, espèce de petite loggia, qu'ils ont plaisir à colorer, à peindre de différentes couleurs pour donner beaucoup de joie à leur façade. Ils ont cette pierre quand même dorée qu'ils utilisent énormément. Puis il y a beaucoup de choses évidemment d'influence baroque à cause des chevaliers de Saint-Jean, énormément d'églises évidemment. Tu sens bien la patte catholique. Moi ça me dérange pas parce que ça laisse quand même des beaux bâtiments.
Oui c'est vrai.
Dont des co-cathédrales.
Là oui, tu m'as appris l'existence d'une co-cathédrale. Alors explique-nous ce que c'est qu'une co-cathédrale, Françoise.
Alors une co-cathédrale, donc cathédrale veut dire fauteuil. dans lequel s'assied l'évêque, qui siège en tant que chef de la cathédrale, c'est-à-dire, disons, une assemblée de gens qui dirigent les affaires. Oui. Et c'est co-dirigé par le Saint-Siège à Rome et par la cathédrale du coin. Alors que d'habitude, c'est comme le canton et la confédération, un diocèse doit en référer évidemment à Rome pour certaines affaires, mais il a beaucoup de latitude, d'autonomie pour d'autres affaires qui sont évidemment dirigées par la cathédrale. Mais ces co-cathédrales, c'est pouvoir partagé.
Ok, effectivement, ça doit changer un petit peu la donne quand il s'agit de prendre des décisions, puisqu'évidemment, il faut l'aval du coup de Rome pour pouvoir faire certaines choses.
Par exemple.
Tu donnais tout à l'heure cette info sur les bow windows qui sont volontiers colorés. On a parlé du fait que ce voyage était coloré, c'est pas pour rien, parce qu'au-delà de ces parois qui parfois prennent un peu des couleurs fantasy, la luminosité, la couleur se retrouve dans d'autres choses, et notamment dans les bateaux qu'on retrouve sur place.
Oui, alors c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'avais envie d'aller là-bas, c'était ces photos de bateaux colorés de pêcheurs qui s'appellent des luzu, qu'on trouve particulièrement dans des villages de pêcheurs, dont celui de Mazaxloc.
À tes souhaits.
Hein, c'est ça. On a mis un moment à comprendre comment ça se prononçait, donc c'est
ça,
un nom maltais.
Il faut l'écrire après encore.
Ouais. Alors X-L-O-K-K.
D'accord.
Voilà. Et puis, elles sont donc faites avec les couleurs de base, rouge, jaune, bleu. C'est très coloré. Et il y a toujours un œil pour protéger les pêcheurs et surtout les faire avoir une bonne pêche. C'est comme les gondoles à Venise, quoi. Mm-hmm. C'est la marque maltaise par excellence. Ils ont raison, d'ailleurs, de garder ça comme facteur d'attractivité. Tout le monde entretient sa barque, la repeint, quand ils en construisent, ben, ils gardent ses couleurs traditionnelles parce que ça fait partie du charme et de l'attractivité de, en tout cas, ces pêcheurs dans ces villages.
Bah, puis il faut bien le dire aussi, c'est qu'effectivement, d'un point de vue esthétique, il y a un côté carte postale assez incroyable avec ces barques extrêmement colorées devant cette fameuse pierre ocre, comme tu le disais tout à l'heure, dorée. C'est très lumineux, c'est magnifique.
Écoute, en tout cas, moi, j'ai été vraiment comblée. Et puis, surtout, c'est une île qui a beaucoup de facteurs d'attractivité. C'est très sympathique, très convivial. Il y a 320 000 habitants. C'est le plus petit État membre de l'Europe.
Ok.
Et puis, elle fait 300 km² en tout et pour tout.
Est-ce que La Valette est une grande ville ou
oui,
pas forcément?
Oui, c'est une assez grande ville.
Donc on se retrouve avec le principe de grande ville et puis autour plein de petits villages en fait.
Il y a une ou deux villes de moyenne importance autour, ouais. Mais c'est vrai que tout est centralisé autour de La Valette, qui est le nom d'un général français qui a sa statue et sa place évidemment. C'est très raide, La Valette. J'ai pas été dépaysée de Lausanne, mais plein de charme. C'est très vivant. Les rues sont, en tout cas, toute la vieille ville est piétonne. On peut circuler en voiture, mais c'est un petit peu comme Séville. C'est limité parce qu'on n'a pas trop favorisé la circulation en voiture pour garder ce caractère, justement, authentique de vieille ville.
On ne le sait pas forcément, mais dans la pop culture, il y a un personnage qui est rattaché à cette région, notamment à La Valette, mais à cette région du globe. C'est un personnage qui a été dessiné par un dessinateur qui s'appelle Hugo Pratt.
Qui habitait Grandvaux.
Et oui, accessoirement. Et donc, effectivement, on parle naturellement de Corto Maltese. Et c'est assez drôle parce que quand tu m'as proposé un dessin de Corto Maltese pour me faire réagir sur le fait qu'on allait traiter Malte dans le prochain Voyage-Voyage, j'ai pas du tout percuté. Puisque c'est vrai que pour moi, Corto Maltese, c'était un navigateur, pas forcément avec des attaches. Et pourtant, c'était vraiment marqué dessus. Maltese, ça veut justement dire maltais.
Bah oui, il vient, il est d'origine maltaise. Enfin, Hugo Pratt l'a situé là. Je cherche justement chaque fois des repères. Alors, j'ai trouvé le repère de Corto. Et puis, il y a un autre repère aussi. Je t'avais fait une devinette.
Oui.
pour te dire, mais tu sais de quoi il s'agit vraiment?
Tu m'as montré une statue d'oiseau.
Voilà, un faucon.
Oui.
Un faucon maltais. Mais le faucon maltais n'est pas ce qu'on croit, c'est pas un oiseau. C'est au fait le tribut que devaient payer chaque année les hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem au roi d'Espagne, parce que c'est Charles Quint qui leur a attribué finalement la gouvernance de ces terres en échange de la jouissance de l'archipel et donc du fait de pouvoir y faire du commerce sur la route des pèlerins de Jérusalem. Par contre, l'origine de ce terme faucon maltais pour cette redevance, je ne l'ai pas encore trouvée.
Après quelques recherches, il s'avère que ce faucon maltais en était bel et bien. Le tribut réclamé par Charles Quint n'était pas constitué d'une taxe sonnante et trébuchante, mais bien d'un réel faucon de chasse vraisemblablement entraîné. Passionné de chasse, Quint était un grand amateur de fauconnerie. Or, l'archipel maltais était réputé à l'époque pour la qualité de ses rapaces, notamment les faucons pèlerins friands des falaises de l'île. L'animal était donc remis chaque année à la Toussaint. Ironiquement, aujourd'hui, l'oiseau national de Malte est le merle bleu, mais le faucon reste un symbole fort, même s'il a frôlé l'extinction dans les années 80. Et d'ailleurs, il y a un truc assez marrant à voir aussi, c'est que ces fameux hospitaliers, ces fameux moines soldats, puisqu'on parlait de ça à l'époque, eh bien, ils sont toujours existants aujourd'hui.
Oui, alors l'ordre, évidemment, disparu parce que la République, Napoléon, il a un petit peu abrogé ça. Et puis, il a fait sa sauce à lui avec toutes ses décorations, la Légion d'honneur et compagnie, bref. Il est ressuscité depuis 1961 et il perpétue cette tradition d'assistance aux pèlerins ou aux pauvres. Et évidemment, il y a plein de nobles ou d'aristocrates un peu en déshérence qui en font partie, des Bourbons et autres Savoie, pour montrer qu'effectivement, ils s'occupent de ceux qui ont moins de chance qu'eux. Donc cet ordre existe sous un nom un petit peu modifié, mais ils ont gardé cet uniforme avec cette fameuse croix de Malte,
oui,
qu'on retrouve aussi dans la croix huguenote d'ailleurs, dont cette tradition d'aide aux pauvres et aux éventuelles prédations dont les pèlerins pourraient être victimes.
Et c'est marrant, hein, parce qu'effectivement, il y a plusieurs de ces ordres qui étaient vraiment des ordres guerriers à l'époque, hein, comme par exemple les Templiers, qu'on a évidemment largement connus, qui ont perduré et qui se sont effectivement changés sur des choses plus hospitalières, qui d'ailleurs sont à la base du projet. Hein. Et c'est notamment le cas de l'ordre teutonique, par exemple, en Allemagne, qui a suivi exactement le même chemin, avec les mêmes péripéties par ailleurs.
Une manière de s'acheter un strapontin pour le paradis, peut-être.
Probablement, après quelques horreurs passées par là, bien sûr.
Bon, les héritages, ma foi, c'est les héritages. Hein. On n'hérite pas toujours de quelque chose qui est complètement fronde de prédation, d'appropriation dont on n'est que moyennement responsable.
Bien sûr, et d'ailleurs la Suisse ne fait pas exception à ça avec quelque chose pas terrible, notamment autour du chocolat par exemple, et d'autres réjouissances dans le sens. Qu'est-ce qui te restera donc à vie de ce que tu as vécu à Malte? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus sur cette petite île finalement?
Ben écoute, c'est la somme de choses absolument passionnantes sur un petit territoire.
Oui.
Du néolithique jusqu'à ces barques de pêcheurs, et puis cette architecture avec ses bow windows, donc ses fenêtres loggia, des gens charmants, souriants, joyeux. D'ailleurs, il y a les feux d'artifice, ils sont vraiment très à l'honneur sur cette île. Ils font des feux d'artifice de jour.
Ok, c'est déjà
exceptionnel. Et ils font ça à l'année, ça culmine au mois d'avril avec un festival incroyable. Nous avons eu droit, la semaine où j'y étais, à un vendredi soir où on fête la fin de la semaine et hop, 10 minutes de feu d'artifice tirés dans le port. C'est une pratique extrêmement répandue et c'est une ville feu d'artifice, c'est une île feu d'artifice, effectivement. Je recommande.
Eh ben c'est très bien, parce que les feux d'artifice, on va les écouter maintenant avec, on a dit que c'était Handel.
Firework Music, un extrait de Fireworks Music, musique pour les feux d'artifice de Handel.
Parfait, merci beaucoup Françoise.
Avec plaisir.
À bientôt.
www.radionv.ch